marché, évidemment, est dopé par l'espoir d'une vaccination massive contre la Covid-19. C'était Céline Pentex, investir pour RFI.
Merci Céline Pentex. Une dernière information, laissez-nous travailler. Jusqu'à 650 personnes, selon la police, ont défilé aujourd'hui à Nantes pour dire non à la mort des travailleurs de la restauration, bars et discothèques derrière une guillotine, symbole, selon eux, de la mort de leur filière. C'est la fin de ce journal international. Où que vous soyez sur la planète, merci à vous de l'avoir écouté. Il est 18h10 à Paris et il va être 20h10 à Damas. Radio G. 101.5 FM.
Bonsoir et bienvenue à l'écoute de l'Oreille Curieuse, la quotidienne dédiée aux actualités culturelles et locales sur Radio G et à toutes les découvertes qu'on juge dignes d'intérêt pour votre écoute. Aujourd'hui, nous sommes lundi et un lundi sur deux, on retrouve Cacahuètes et compagnie, la chronique dédiée à la nutrition et qui est proposée par José. Ce soir, on va enfin soulever un lourd secret, celui du petit déjeuner. Je vous invite à retrouver cette chronique en deuxième partie d'émission. Avant cela, il y aura Mehdi, qui a été écouté en long, en large et en travers le dernier projet de Isult, ainsi que ses projets précédents. Elle vient de sortir un EP qui s'appelle Brut. Et avant cela encore, je vais vous poser la question, c'est quoi ton signe ? C'est le titre de la Selecta Podcast d'aujourd'hui, qui est notre nouveau rendez-vous hebdomadaire depuis la semaine dernière. Derrière le micro, il est déjà 18h12, c'est Anneli qui vous parle. Et j'ai oublié de venir avec un proverbe pour aujourd'hui, donc je n'en inventerai pas un tout de suite. Je vous prie de m'en excuser. On va bien sûr débuter l'émission en musique. Et pour ça, j'ai choisi un titre qui vient de sortir d'un groupe local qu'on apprécie beaucoup. C'est un titre des Wild Fox. Le nom du morceau, c'est Under Road's Mind. Le clip vient de sortir aussi la semaine passée. Et ce morceau, qu'on peut écouter quand on est un peu énervé, peut-être par ce qui se passe autour de vous ou dans le monde. Le titre annonce un EP à sortir en janvier 2021. On l'écoute tout de suite.
Agus, the age of time. The age of time. And you'll be mine. Around the town, I drop some crowns, and you'll be mine. Undoing.
Yeah.
vous êtes peut-être réveillé un peu fort, mais je pense que comme ça, vous êtes attentif et attentive au nouveau rendez-vous du lundi dans l'oreille curieuse. Et c'est l'heure de la chronique Selecta Podcast, un endroit où nous parlerons de podcasts natifs, c'est-à-dire qui n'ont pas été diffusés, ou en tout cas pas pensés pour être diffusés sur la bande FM. Contrairement à nous, Radio G, on est une radio. Mais si vous aimez la radio, vous aimerez certainement les podcasts. Il y a plein de choses de qualité et des choses très, très diverses. Alors, s'il y a bien un sujet qui est revenu à la mode et qui s'est à nouveau imposé dans nos conversations cette année, c'est... Je n'ai personne pour jouer au quiz avec moi. C'est l'astrologie. Est-ce que vous avez remarqué ? En 2020, tout le monde connaît bien son signe, en tout cas son signe solaire, mais aussi de plus en plus son ascendant et parfois même l'intégralité de son thème astral. Les questions en lien avec l'astrologie sont de plus en plus fréquentes en interview, quoique pas dans cette émission ni dans les interviews politiques, et on entend de plus en plus souvent parler des dates de rétrogradation de certaines planètes. Il y a même des chansons de Katy Perry, de Bloc Party, de Métronomie sur Mercure en rétrograde. Et si j'ai encore besoin de vous convaincre qu'il s'agit d'un des phénomènes de 2020, l'astrologie, il n'y a qu'à aller voir à la librairie ou à la médiathèque d'Angers le nombre de livres qui sont édités à ce sujet, ou tout simplement le nombre d'abonnés sur les comptes consacrés à l'astrologie sur les réseaux sociaux. Alors, je ne suis pas là pour faire une chronique topo sur cette discipline, ni comment celle-ci est présente, s'en va, puis revient, dans la culture populaire. C'est bien l'heure de la Selecta Podcast. Comme mes oreilles sont très curieuses, j'ai écouté cette semaine « C'est quoi ton signe ?». C'est un podcast proposé par Marion Lagan et Mathilde Fachan, qui sont toutes deux astrologues. Et oui, c'est un métier. Alors Marion Lagan propose déjà un podcast qui s'appelle Astrolettre et qui anime un compte Instagram du même nom. Elle est aussi professeure d'anglais ainsi qu'autrice de nombreux romans. Mathilde Fachan, elle a aussi un podcast dédié à l'astrologie qui s'appelle Z comme Zodiac, également un compte Instagram du même nom, et elle a sorti un livre, un manuel d'astrologie qui s'appelle Astromap. Elle est aussi restauratrice, pâtissière et tient un café, le café Contresort à Paris. Voilà pour les présentations. Alors, C'est quoi ton signe est un podcast d'interview qui prend vite la forme d'une conversation assez spontanée avec un ou une artiste, une activiste, n'importe quelle personnalité choisie par les podcasteuses. Ce qui les réunit, toutes les deux, c'est leur connaissance et leur pratique de l'astrologie. Je rappelle qu'elles sont astrologues. Et le principe de C'est quoi ton signe, c'est vraiment de mener un entretien avec un invité ou une invitée, mais avec à portée de main la carte astrale de cet invité. Et souvent, cette carte est mise en regard des réponses ou bien peut être le support de nouvelles questions. Et pour que tout le monde suive bien cette chronique, le thème astral d'une personne, c'est la position des planètes dans les différents signes du zodiaque à l'heure de sa naissance. L'astrologie part du principe que ça pose des énergies qui peuvent influencer les personnes. Alors après, je vous laisse choisir si... la croyance que vous accordez à cette chose-là, et puis les degrés d'influence que vous y mettez, c'est vraiment pas le sujet de cette chronique. Alors par contre, en effet, vous avez plus de chances d'apprécier ce podcast si vous n'êtes pas complètement rétif ou rétive à l'astrologie, faut être honnête aussi. Mais ça n'est pas du tout obligatoire d'être une pro, ni même de s'y intéresser vraiment. Et c'est pour ça que je pense que c'est un podcast qui peut s'adresser à tout le monde. Parce que là où j'ai trouvé ça intéressant, c'est que Marion Lagan et Mathilde Fachan expliquent aussi les légendes et les mythes qui sont derrière les croyances astrologiques. Et là, on arrive dans la culture en général, liée aux mythologies. Neptune, Mars, Vénus, Jupiter, ce sont quand même des noms qui reviennent souvent tout au long de l'histoire de l'art, si vous avez remarqué. Et c'est là que vous pouvez peut-être apprendre des choses. Et à partir de ce moment-là, on peut aussi voir l'astrologie comme un grand jeu plein d'histoires qui font écho à notre propre vie ou non. C'est aussi important de préciser que C'est quoi ton signe ? C'est pas un podcast qui est dans une approche déterministe et prédictiviste du genre la lune était en Sagittaire au moment de ta naissance, ta vie va être pourrie, c'est fini pour toi, bonne chance. Voilà, c'est pas du tout l'approche. L'astrologie est pensée ici comme quelque chose d'humain qui dépend de l'usage qu'on en fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec ce nouvel essor, on voit que ça peut être une approche moins caricaturale, une lecture plus fine et parfois aussi très subversive. Bon, alors si vous vous intéressez à l'astrologie, ce podcast, il peut d'autant plus vous intéresser parce que vous êtes tombé dans cette tendance de 2020 et que ça va vous donner des outils, des exemples d'interprétation concrets avec des... Bah, la vie des invités, en fait. Et on peut entendre quelqu'un qui dit, bah voilà, comment je crée, etc. Puis c'est mis en regard avec telle ou telle chose. Vous prenez ou vous prenez pas. Et au pire, vous aurez écouté une heure, une personnalité parler de son travail, souvent de la création, sous un angle indifférent. Et c'est ça aussi que j'ai apprécié. C'est qu'avoir cet angle-là de questionnement, ça renouvelle les questions. Et ça peut ouvrir des portes dans un entretien radiophonique. Ce qui n'est pas toujours simple aussi de se renouveler. Oui, quoi vous dire, je m'embelle, je me saute un peu de ligne et je cafouille complètement, vous l'avez entendu. Ce que j'ai apprécié aussi dans C'est quoi ton signe, c'est qu'on découvre aussi avec ce projet les invités sous un angle assez intime aussi. Il y a une façon très personnelle de parler, une grande proximité. Et j'ai trouvé que le premier épisode, notamment, pouvait être assez émouvant dans la façon dont Mewa parle de son travail de création avec des métaphores autour de l'eau pour la réalisation de son film. C'était assez, assez joyeux. Alors, niveau de production, qualité sonore, dans C'est quoi ton signe? C'est pas les meilleures conditions studio, c'est autoproduit, mais ça reste très audible et appréciable. Le ton est léger, précis, les voix sont posées aussi. C'est très spontané, et ça je pense que c'est quelque chose qu'on est toujours heureux d'entendre, un peu de spontanéité. C'est quoi ton signe? C'est donc un podcast mensuel qui dure approximativement une heure. Deux premiers épisodes sont sortis. Le premier avec la réalisatrice Mewa et le deuxième avec la chanteuse Pomme. Et puis même si vous n'aimez pas l'astrologie, dites-vous que ça peut être une petite porte d'entrée vers l'astronomie et la contemplation des étoiles. Bon, je vous laisse écouter quelques secondes de la deuxième introduction de C'est quoi ton signe?
Je me fais du mal depuis des années.
Alors ça, c'est pas du tout ça qu'on va écouter. On l'écoutera tout à l'heure. J'espère que vous êtes ravis et satisfaits de m'entendre cafouiller en direct avec vous à l'antenne. C'est tout ce que je peux vous dire de mieux. Je vous mets quand même l'introduction de C'est quoi ton signe.
Des créatrices et des créateurs, des artistes et des activistes qui nous font l'honneur de nous dévoiler leur propre thème astral.
Dans C'est quoi ton signe, on étudie le thème astral. Pour nos auditeurs et nos auditrices qui ne savent pas ce que c'est un thème astral, on rappelle que l'astrologie est un mode d'interprétation. Étymologiquement, c'est comprendre le langage des astres, c'est-à-dire leur place dans le ciel et l'influence qui peut en résulter ou pas. On peut utiliser ce langage pour différents exercices, dont l'horoscope ou par exemple la lecture de thème astral. Le thème astral, c'est comme une photo du ciel astrologique au moment de la naissance d'une personne. Il reflète notamment les énergies qui vivent.
Bon, allez,
dans
on va
la
pas écouter tout l'épisode parce qu'en fait, vous l'écouterez si cette Selecta podcast vous a rendu curieux et curieuse. Et puis parce que je me suis juste emmêlé tous les pinceaux. On va retrouver Mehdi en ligne depuis les internets. Salut Mehdi.
Salut Anne-Li.
Merci à toi de voler à mon secours. Tu vois, j'étais au bout de ma voix, donc je suis très heureuse de te retrouver. Et tu as préparé une chronique sur le dernier projet de Isolt.
Voilà, c'est ça.
Eh bien, c'est à toi.
Alors, bonjour auditrice et auditeur. Excuse-moi, je t'ai coupé.
Je disais, c'est à toi.
Ah, ok. Alors moi, c'est Mehdi, alias Andrea Maya. Aujourd'hui, je suis là pour parler d'une talentueuse chanteuse française du nom d'Isolt. Isolt Onguenet, simplement dit Isolt, est une auteure, compositrice, interprète et mannequin française née le 18 août 1994 à Quessy, dans les Hauts-de-France. Elle s'est fait remarquer en arrivant jusqu'en finale de la Nouvelle Star en 2013 et elle a sorti son tout nouveau projet Brut le 20 novembre dernier. C'est un EP de 6 titres dans un genre piano-voix très planant, contrasté par des paroles crues sans détour. C'est un EP qui explore la complexité du sentiment amoureux, vous balançant entre mélancolie et sexualité. Isolt, c'est beaucoup d'évolution sur le plan musical. Son premier album, Isolt, sorti en 2015, était très électropop. D'ailleurs, elle avouera récemment qu'elle n'aimait pas cet album, car elle ne lui ressemblait pas. C'est justement par la suite que Isolt sera amenée à créer son propre label et sa société pour devenir indépendante et avoir sa liberté totale. Comme elle le dit lors d'une interview pour Énergie le 24 mars 2020, un artiste aujourd'hui doit être indépendant, doit s'appartenir. À un moment donné, c'est nous qui créons la matière première. il y a trop d'artistes qui se sont fait tellement bouffer, qui sont tellement minimisés et qui se sont tellement réduits en miettes, et leur ego et leur confiance en eux sont au stade zéro. Donc voilà, elle voulait éviter ce genre de choses. Donc c'est un choix parfois lourd de conséquences, mais au moins aujourd'hui, Isolde est certaine d'être au courant de tout ce qui se passe autour d'elle. C'est par cette indépendance qu'Isolde a évolué dans ses choix artistiques. On peut le constater avec son EP Noir, sorti en 2019, qui était axé sur le mix entre piano-voix et le genre trap, donc très loin de son premier album. Comme le dit Isolde dans une interview pour Energy.
J'aime beaucoup la variété française, j'aime trop ça. Et je me dis, mais comment faire en sorte que je puisse avoir ce côté un peu piano-voix et en même temps avoir des éléments trap? Et du coup, en fait, je pense que c'est une question de synergie et d'équipe. Par exemple, sur Rien à prouver, à la base, c'était un piano-voix et on a rajouté des éléments trap. Noir, c'était un piano-voix, on a rajouté des éléments trap. Core, ça aurait pu être une sorte de un peu hit-rap avec genre des éléments trap. Et en fait, je pense que je suis arrivée à un stade où je me suis dit, meuf, est-ce que tu peux juste assumer le fait que t'aimes la chanson? En fait, que t'aimes la chanson, que t'as une voix, que tu incarnes quelque chose et que tu n'as pas forcément besoin à chaque fois de rajouter de la prod ou de cacher ta voix avec de la prod ou des percussions, etc. Est-ce que tu peux juste assumer le fait de te mettre vraiment clairement à nu, même en chanson? Et j'avoue que au départ, c'était hyper compliqué parce que je me disais, peut-être que je fais une erreur, peut-être que c'est pas comme ça en fait que ça se passe. Je me disais, vu le contexte, il y a tout le monde qui sort des trucs un peu trap et tout, machin, hyper, et des gros bangers et tout. Et je me suis dit, en fait, au final, tu sais quoi, fuck en fait, fuck. Sors ton piano-voix, tu verras.
Fuck quoi?
Fuck, ouais. C'est donc le titre Core qui se démarquait sur le peignoir et on écoute tout de suite un extrait.
Je me fais du mal depuis des années. La main sur les yeux, pas envie de la retirer. Y'a pas de place pour les fables, y'a pas de place pour les regrets. Sur le sol, relève-toi, faut pas déconner. J'ai ce bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. J'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête.
Voilà, donc le corps nu sur le sol, je me fais du mal depuis des années. Donc c'est par ces mots qu'Isolde commence à nous raconter son histoire au travers de Core. Dans ce titre, elle aborde le thème de l'acceptation de soi avec des paroles dans lesquelles chacun peut se reconnaître. Le regard des gens, j'en ai que faire, qui sont-ils pour me juger? J'ai ces bruits dans ma tête, j'aimerais que ça cesse, mais en vain, chante donc Isolde. Je vous cite d'autres mots d'Isolde. Je voulais un texte qui parle du pardon et de la sérénité. Un pardon par rapport à la fille adolescente que j'étais dans le passé et qui n'avait pas la maturité que j'ai aujourd'hui. Vu que pendant des années, je ne m'acceptais pas très bien, je me suis infligé beaucoup de choses à mon corps. Et aujourd'hui, en fait, j'ai réussi à faire en sorte que j'arrive à me relever pour pouvoir accepter tout ce que j'incarne et accepter que je suis différente. Ma différence, c'est ma force. C'est donc indépendante et assumée qu'Isolde nous sort le 20 novembre dernier l'EP Brut qui porte très bien son nom. Dans cette EP, on retrouve des paroles très crues, très réalistes, contrastées par des instrumentales au piano très douces avec l'ajout d'ambiance pour un résultat planant qui fait pleinement ressortir la voix si singulière et féminine d'Isolde. C'est un EP à 6 titres avec des noms qui, à la suite, nous donnent le ton du projet. Donc, il y a Indélébile, Sexe, Sans un regret, Bébé, Néon rouge et Bad Boy. Dans chaque titre, on y entend le chant lexical de l'amour, du sexe, avec des mots tels que coup de rein. Comme dans le titre Néon rouge que j'aime beaucoup sur l'EP, je vous laisse tout de suite écouter un extrait. Beau titre. Donc voilà, dans tout cet EP, elle dépeint sans filtre des scènes d'amour. Le mystère est qu'on ne sait pas si ce sont des histoires romancées ou si ce sont des expériences appartenant à Iseult, mais n'empêche qu'elle parle de sujets auxquels chacun peut s'identifier. Ce sont des histoires simples, mais des histoires fortes, et c'est ici le credo de l'EP Boat. On ressent globalement dans le projet le côté éphémère d'une relation intense, d'où le côté très nostalgique. Des paroles lourdes de sens qui parlent de sujets parlant à peu près à tout le monde. L'amour, le sexe, le plaisir et la douleur. On tend toujours vers deux émotions fondamentales dans ce projet, qui sont la joie et la tristesse. On écoute tout de suite un extrait du titre « Sexe ».
Tes yeux rivés sur moi, je me tends d'une trop sexe. Me lâche pas du regard, fais les mains sauf l'une de tes préférées, tu me le dis sans cesse. Aime-toi, clignant ma tabi. Son cœur on s'emballe, lui et moi c'est trop la folie. Un genre de bonnie et Clyde. Son corps me dit oui, te retiens pas. Donne-moi tout, baby, baby. Ne t'abstiens pas. Oh baby, baby, wine, wine. Oui, bouge ton corps, ouais, wine, wine. De droite en bas, ouais, wine, wine. Oh baby, baby, ton corps, ouais, c'est de la folie. Ouais, c'est de la folie. Baby, are you down for?
Donc voilà, c'est vraiment explicite, mais sans forcément rentrer dans le vulgaire. Par la musicalité recherchée des instrumentales et sa voix très forte, douce et honnête, elle réussit vraiment à parler de sujets sensibles avec classe et légèreté, je trouve. Ce qui donne une identité précise à l'EP Brut, c'est qu'Iseult a magnifiquement su créer une œuvre qui restera dans le temps. À défaut de miser sur des tubes ou des hits avec tous les artifices qu'on peut trouver aujourd'hui dans la pop, là on a un EP original qui mêle de vieux sujets comme le monde avec une manière plus jeune et adaptée à notre temps. Et oui, comment on aurait pu imaginer jusqu'à maintenant une femme qui parle aussi librement de ces sujets sur la scène pop. L'EP Brut est un hommage donc aux femmes indépendantes et assumées. C'est fini les chansons qui parlent d'amour ou de sexe toujours dans le même sens. Ici, la féminité est assumée et ça fait du bien de pouvoir changer de point de vue dans une industrie musicale qui nous propose parfois que très peu de points de vue. Pour conclure, vous l'aurez compris, l'EP Brut, c'est beaucoup d'émotions, un voyage intime dans l'univers d'Iseult. J'espère vous avoir donné envie d'effectuer ce voyage. Et c'était Mehdi alias Andrea Maya et on se quitte sur le titre Bad Boy, présent bien sûr sur l'EP Brut.
A pris énormément de retard, donc je coupe ce titre avant la fin. Vous pouvez retrouver tout le projet de Iseult, son dernier EP Brut. Il est en ligne sur toutes les plateformes, etc. Et vous êtes toujours à l'écoute de L'Oreille Curieuse, qui a une parole un peu cafouilleuse ce soir, et puis il y a une distorsion complète du temps. Mais on est très heureux d'être avec vous et de retrouver maintenant Cacahuète et compagnie.
Cacahuète et compagnie.
Salut José.
Salut Annelie, ça va ?
Oui, très bien, je suis ravie de retrouver la chronique nutrition. Vraiment.
Ah, très bien, très très bonne nouvelle. Alors, ces 15 derniers jours, comment se sont passés ? Comment ça va, Nini ?
Bien, très bien, très bien, mais je ne suis pas le sujet de l'émission. Moi, je veux percer le secret du jour.
Alors, tu l'as dit en intro un petit peu, le sujet, on parle de quoi ce soir ?
Du petit déjeuner.
Très bien. Alors, comme tu le disais, justement, on va parler du petit déjeuner idéal, mais on va commencer comme d'habitude avec quoi ?
Un micro-trottoir. Il faut être réveillé.
Allez,
hein.
C'est parti.
Alors, à vrai dire, j'ai pas de petit déjeuner idéal parce que je prends pas souvent de petit déjeuner. Juste quand j'en prends, du coup, je prends jus de citron pressé dans de l'eau fraîche. Je prends aussi œufs brouillés, ça j'adore, et blanc de poulet. Donc ça, c'est pour le petit déj que je prends généralement. Ou alors des fois, c'est une petite tartine avec de la confiture dessus. Et puis voilà, je bois pas de café ni de chocolat chaud. Donc ça s'arrête là pour le petit déj.
Salut José. Bah écoute, mon petit déjeuner idéal. Alors moi, comme je me lève tôt et qu'il faut que je tienne toute la matinée, j'ai besoin d'un bon petit déjeuner. Donc en général, ça va être du pain complet ou du pain de mie complet. Avec un fruit, toujours un thé vert, après des fois c'est au citron, à la menthe, ça dépend, du fromage blanc, donc dans le fromage blanc je mets un fruit, des amandes avec du miel, ensuite je fais aussi deux œufs que je fais à la poêle et que je fais des œufs brouillés en fait, où je mets aussi un fruit dedans, enfin un bout de fruit pour faire un petit goût sympa, du miel aussi des fois. Et tout ça juste avant de manger, je prends tout le temps un verre d'eau ou des fois je rajoute du citron. Donc voilà pour le petit déjeuner idéal.
Salut José. Alors pour moi, mon petit déjeuner idéal, ça va être un muesli, donc avec du lait soja. Le plus souvent avec, je prends galette de blé au chocolat noir. Ensuite jus d'orange et café si j'ai le temps, et en fonction de mon envie, souvent ça va être accompagné d'un fruit, donc en ce moment ça va être plutôt clémentine. Voilà, et c'est comme ça que je commence bien la journée.
Alors, mon petit déjeuner idéal, le mien, celui de Sandra, ce que j'adore faire, c'est deux tartines de pain que je fais griller. Dessus, je mets un peu de beurre demi-sel, je trouve ça délicieux. Et puis ça me rappelle un peu mon enfance et ma petite Madeleine de Proust, avec une tasse de lait. Je fais partie de ces adultes qui boivent encore du lait. Et en général, je me presse une orange ou je mange l'orange. Voilà, voilà ce que je prends au petit déjeuner de manière générale. Puis c'est tout.
Dans mon petit déjeuner idéal, il y a systématiquement un ou deux œufs qui sont soit cuits au plat, soit cuits en omelette avec des épices. Mais je peux remplacer ça par du jambon ou du saumon fumé ou du saumon mariné en fonction de ce que j'ai à la maison. Il y a aussi systématiquement un ou deux fruits frais de saison et des noix, noisettes ou amandes. En plus de cela, il y a fréquemment du pain complet au levain avec un petit peu de beurre ou alors une galette de sarrasin du coup dans laquelle je mets mes œufs. En plus, je bois du thé vert, souvent un petit peu décalé après le petit déjeuner.
On est revenu ?
Ouais, on est revenu, on t'écoute José.
Bon, bah, je vous ai bien eu. Oui, ce sont des personnes de mon entourage proche ou professionnel. Je voulais un petit micro-tondoir un peu différent, donc avec des experts ou presque.
Et alors, je pense que ça peut nous intéresser, nous qui écoutons, les auditeurs, les auditrices, de savoir un peu qui tu as interrogé. Alors, rapide. Hein.
Alors, oui, je fais vite. Donc, on commence avec Pierre-Adrien Favredan. Donc, c'était le co-gérant du bar à cocktail Mamifada qui a ouvert cet été à la Cale de la Savate. Donc, lui, c'est plutôt un sportif qui fait de la force, de la muscu, de l'entretien musculaire. Après, c'est pareil, il fait partie de mon entourage. Du coup, ensuite, c'est Arthur, c'est un ami. C'est un peu lui qui m'a fait découvrir, il m'a donné envie de travailler dans la diététique. C'est un professionnel de haut niveau de handball. Et donc, lui, voilà, donc son petit déj est quand même assez conséquent. Je ne sais pas si vous avez bien remarqué. Après, on a Julien Floret, donc c'est un préparateur physique avec qui je travaille en collaboration de temps en temps. Donc, son public est généralement des sportifs de haut niveau. Donc, ça envoie pas mal non plus aussi. Ensuite, la seule femme, pour une fois, c'est inversé. Donc, c'est une femme, donc c'est Sandra Ferreira, c'est une diététicienne qui est chroniqueuse en nutrition à la radio et sur C8 dans l'émission William à midi, pour ceux qui regardent la télé le midi. Donc il y a toujours une diète qui intervient, bah, c'est elle. Et comme je veux toujours garder le meilleur pour la fin, bah, excusez-moi les autres si vous entendez, mais bon, je veux pas classer, hein, mais c'est Fabrice Kuhn le dernier, c'est un médecin généraliste diplômé en biologie et médecine du sport. C'est le médecin de l'équipe de France, des équipes de France d'haltérophilie. Alors là, il pratique le triathlon, donc le type Ironman, donc la plus grande distance, le marathon, l'ultra-trail. Donc j'ai beaucoup échangé avec lui pendant ma formation et encore aujourd'hui, il m'aide beaucoup encore lorsque j'ai besoin d'aide. Il est très 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 disponible. Donc merci à vous tous de vous être prêtés au jeu. Alors du coup, Annie, on va passer aux choses sérieuses. Annie, toi, c'est quoi ton petit déjeuner habituellement?
Bah déjà, moi là, je me sens toute petite derrière tous ces grands sportifs là qui font des choses de milliards de kilomètres. Alors moi, pour résumer, je prends du thé, du pain, du beurre, de la confiture, de la pâte d'amande aussi, un fruit, des céréales et du lait végétal.
Très bien, très 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 bien.
Ça mange une bonne note.
On n'a pas besoin de se voir plus tard. Donc c'est très bien, ok, c'est un mauvais client ça.
Alors par contre j'ai des amis qui ne boivent qu'un café le matin.
Ah ben voilà, ben eux, tu vois, par exemple, tu peux leur donner mon numéro, on peut prendre rendez-vous. Donc, ou alors ils écoutent la chronique, ça peut aussi les aider beaucoup. Donc déjà, pour comprendre l'utilité du petit déjeuner, je commence toujours par la signification historique. Donc d'où vient le nom petit déjeuner? Donc il provient du nom digejunare, okay, qui signifie en latin donc rompre ou arrêter le jeûne. Car oui, vous connaissez sans doute ou vous avez déjà entendu parler du jeûne nocturne. Donc le jeûne nocturne, lui avec un accent circonflexe sur le U, donc intervient physiologiquement au bout de 6 heures sans ingérer d'aliments. Donc si vous dormez 6, 8 ou 10 heures, ça peut expliquer le fait que le matin au réveil, vous ayez vraiment, vraiment faim. Donc le terme a été modifié avec le temps, vous savez comme tous les termes, au bout d'un moment ils évoluent, ils changent. Et par exemple au Moyen-Âge, il n'y avait pas de petit déjeuner. Donc ils faisaient un gros déjeuner qui s'appelait le dîner, et ils faisaient un gros dîner qui s'appelait le souper. Et petit à petit, le souper est devenu dîner, le dîner est devenu le déjeuner, et après le petit déjeuner est arrivé, mais ça c'est avec les us et coutumes. Donc à quoi sert-il le petit déjeuner? On parlait un peu plus du jeûne nocturne. Donc, il sert déjà à apporter de l'énergie pour récupérer, mais aussi pour être en forme pour nos activités matinales. Donc, le travail, le sport, il y a aussi la gestion familiale. Il aide aussi au maintien de la concentration, de la vigilance et aussi à garder l'attention. Vous savez, quand on est en cours, des fois, on pique du nez, quand on n'a pas super bien
déjeuné. La petite sieste de 11 heures, quoi.
Et la petite sieste de 11 heures qui est terrible. Et donc, du coup, il évite justement de piquer du nez. Donc, il aide aussi à éviter les grignotages dans la matinée. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut prendre si tu as bien suivi mes anciennes chroniques?
Ah là, j'ai bien suivi une petite poignée d'oléagineux qui tient
très,
dans la main,
bien.
Qui ne dépasse
très,
pas.
Très bien. Parfait. Alors, de quoi se compose-t-il?
Alors, bon petit déjeuner, le petit déjeuner exemplaire.
Bah oui, à peu près.
Ouais,
à peu près.
À peu près.
Alors, il doit être composé des fondamentaux diététiques pour avoir un bon équilibre alimentaire. Donc, comme vous avez pu entendre le micro-trottoir, il y a pas mal d'idées. Forcément, tout y est, hein, mais on va un peu détailler. Donc, une source de protéines, de glucides, de lipides de qualité, une source de vitamines et minéraux. Donc, j'insiste vraiment sur la qualité. Donc là, je vais ouvrir une toute petite parenthèse. Donc, dans mon métier de diététicien aujourd'hui, j'interviens dans des écoles sur Angers et j'entends trop d'habitudes qui me choquent et que je trouve pas du tout adaptées aux enfants de primaire, comme des bonbons, déjà dès le matin au petit-déj, une boisson gazeuse de couleur marron, oui, ça arrive, du salé aussi, mais c'est pas grave ça, mais quand ça devient les restes de la veille...
Quand c'est une pizza de la veille, ça craint.
Ouais, c'est un petit peu bizarre, quoi. Enfin, c'est surtout bizarre. J'essaie d'étudier tout ça. Et après, bon, on a forcément les fameuses céréales du petit déjeuner qui sont hyper sucrées. Et puis, les pâtes à tartiner chocolatées. Donc, ça, c'est pas grave quand c'est de temps en temps. Par contre, quand c'est tous les matins, là, ça commence un peu à poser problème. Aussi, chacun fait avec son budget, ses habitudes et forcément ses connaissances. Donc ça, c'est mon métier, c'est ma mission dans ces écoles, d'essayer de les éduquer un peu et de leur faire prendre conscience du danger qu'ils prennent à s'alimenter de cette façon. Donc le danger, c'est danger à long terme. C'est pas parce qu'un matin on a pris du Nutella qu'on va mourir. On est bien d'accord, hein. C'est sur du long terme, avec la prise de poids. Donc on avait vu une fois les hypercholestérolémies, des problèmes cardiaques, l'essoufflement, l'effort.
Oui, on est vraiment sur un contexte de santé. C'est pas bien pour l'idée, mais c'est une question de santé.
Exactement, voilà. Et là, c'est vraiment ça que ça touche les enfants et ça fait peur parce que ça fait de plus en plus, quoi. Ouais. Alors, les sources. Donc, quelles sources d'aliments, justement, pour avoir un bon petit déjeuner avec des protéines, des glucides, des lipides de qualité et des vitamines et minéraux? Donc là, c'est d'un point de vue général. C'est pour monsieur tout le monde. Je ne prends pas en compte les différents régimes comme le sans gluten, le paléo, les végétariens, les véganes. Après, chacun s'adapte à sa particularité. Donc, dessous, j'ai énuméré des aliments. On essaie de prendre minimum 3 aliments. Mais vous voyez, des fois, ça peut varier selon un peu l'activité. Plus on est sportif, plus on a d'activité, plus on en prend parce que forcément, il faut combler. Donc déjà, on commence par la réhydratation. Donc la réhydratation dès le réveil, elle est importante. Donc, Arthur disait qu'il prenait tout de suite un verre d'eau, des fois un peu citronné. Donc ça aide à mettre en route le tube digestif. Donc là, voilà, donc de l'eau froide ou température ambiante, une boisson chaude, un thé et café qu'on peut prendre plus tard si vous avez envie. Aussi, on a quoi un produit céréalier. Donc pour l'apport d'énergie, on préfère ceux à indice glycémique bas. Donc, je referai une chronique plus tard dans l'année avec ce que c'est qu'indice glycémique. C'est qu'en fait, c'est le taux de glycémie qui augmente ou qui baisse dans le sang. Non, il baisse beaucoup plus souvent. Il augmente beaucoup plus souvent qu'il baisse. Et aussi pour renouveler le glycogène. Donc là, les produits céréaliers, donc on trouve les céréales. Je vais plutôt aller sur des céréales complètes, du pain complet, des autres céréales ou alors du seigle, du pain aux céréales. Ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi qu'on peut apporter un produit laitier, donc pour l'apport en protéines et en calcium, bien sûr. Donc là, on a le yaourt nature, le fromage blanc, le lait demi-écrémé. On a quoi aussi donc pour apporter des vitamines et minéraux, on peut apporter un fruit de saison. Ça dépend de la taille, donc une ou deux, voire trois clémentines, deux kiwis, une pomme, une banane. Donc là, c'est vraiment de l'énergie à court terme, avec des indices glycémiques élevés, qui peut tout de suite nous donner de l'énergie pour recommencer notre journée. Alors, pour ceux qui sont plutôt salés, on peut apporter une portion de viande, de poisson ou d'œuf. Alors, le poisson, c'est vrai que Fabrice, lui, il aime bien prendre du poisson dès le matin, mais c'est pas souvent, puis il faut vraiment aimer. Poisson, donc saumon, truite, voilà, ou alors des œufs brouillés au plat, ou des œufs au plat, une tranche de jambon, puis quelques graines oléagineuses aussi, ça fait partie un peu des protéines. On a aussi une source de matière grasse, avec donc c'est l'apport de protéines, ça apporte de l'énergie. Donc du beurre, donc le beurre de cacahuète, vous voyez, je reviens à chaque fois aux oléagineux, et puis aussi quelques graines oléagineuses dès le matin, ça peut combler aussi ces matières grasses. Et un élément des produits sucrés, donc c'est aussi un peu pour le plaisir. Énergie immédiate, donc on a le sucre, mais c'est vrai que je préférais quand même le miel ou le sirop d'agave, voilà, en alternant. Donc, il existe plusieurs types de petits-déj, donc plutôt le rapide, vous savez, pain, beurre, confiture, café ou thé avec un fruit.
Qui marche bien.
Ouais, il marche très bien, c'est un peu comme ça, tu l'as, avec un petit produit laitier, c'est bien le tien si je me rappelle bien.
À peu près, ouais.
Ouais, voilà. On a le sportif avec un yaourt, fromage blanc, avec de l'avoine, des graines oléagineuses, fruits, miel, tout mélangé. Avec aussi, on peut rajouter du pain avec des œufs. Enfin, voilà, là, c'est parce qu'on commence à avoir beaucoup d'activités dans la journée. Mmh. Et puis aussi, après, chacun s'adapte à son envie, ses préférences, ses activités quotidiennes, comme je vous disais. Voilà, le chacun fait en piochant un peu avec ce que je vous ai dit là, en haut et avec ses préférences, comme je vous disais. Pardon, je viens de répéter la même phrase. Et d'un point de vue énergétique, donc, pour certains, c'est important. Un peu moins dans mon activité, mais voilà, ça peut être important. Donc c'est vrai que j'ai pas l'habitude de travailler avec ces données. Je préfère vraiment prendre en compte le bien-être, la volonté. C'est vraiment la personne qui veut changer tout ça. Je prends pas vraiment en compte aujourd'hui ces données, mais c'est vrai qu'aujourd'hui beaucoup de personnes essaient d'en prendre de plus en plus compte. Donc du coup, pour une personne normale, lambda, bien portante, le petit déjeuner doit apporter 20-25% des apports caloriques nécessaires. En gros, pour un homme, c'est quoi? C'est 540 à 675 kilocal, et pour une femme, c'est 420 à 425 kilocalories. Voilà. C'est à peu près la fourchette dans laquelle on doit être. Quand on fait le calcul, vous savez, on regarde derrière les étiquettes, on essaie de faire un ratio, voilà, en général, on peut arriver à ça. Mmh. Alors, Annie, pour conclure.
Oui. Je vais être interrogée, j'ai peur.
Oui. Alors, on va dire que si tu devais revoir ton petit-déj, mais il est déjà assez bien, est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais rajouter par rapport à ce que je t'ai dit plus haut?
Bah, je me pose la question du produit laitier, mais écoute, c'est pas mal. Ou peut-être des œufs de temps en temps pour un grand jour de fête.
Une variété, oui.
Ou peut-être que je prendrai du beurre de cacahuète prochainement.
Pour essayer, t'as raison.
J'en ai dans mon placard.
Très très bonne idée. Et ben, pour terminer, donc, on se redonne rendez-vous dans deux semaines avec un dernier épisode du Moulin de Sarré. On est bien d'accord?
Ouais.
Ça. Et puis, merci aux auditeurs de Radio G. Et merci à toi, Annie. Et puis, bonne soirée. Il n'en reste pas beaucoup.
Oui, c'est clair. Merci beaucoup, José, d'avoir levé une partie du voile sur le mystère du petit déjeuner. Si je comprends bien, on évite le tout trop sucré et les choses industrielles. Ouais.
Bah bien sûr, c'est vrai que j'ai pas du tout parlé de ça, mais en effet, tout ce qui est déjà préparé, c'est beaucoup trop sucré, voire même beaucoup trop salé. Donc faut et le plus possible faire soi-même. Mais vous voyez, j'ai pas dit des choses irréalisables dans ma chronique. On peut faire découper un petit morceau de fruits, le mettre dans du yaourt avec quelques granules oléagineuses, avec une tartine de pain, du beurre de cacahuète, une boisson chaude derrière. Vous voyez, c'est pas méchant, c'est vite fait et c'est bon surtout.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. En plus, quand on le fait ou même quand on t'entend le décrire, on est hyper content.
Ah oui, ça donne le sourire tout de suite.
Bon, on y pensera demain matin au petit déjeuner.
Très bien.
Merci beaucoup, José, et à dans deux semaines pour la prochaine Cacahuète et compagnie. Merci beaucoup à vous tous et toutes d'avoir été à l'écoute de cette émission qui s'est distendue, qui finit complètement en retard. C'était L'Oreille Curieuse, vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Radio G à la page de l'émission. Nous, on se retrouve demain à 18h10 et je vous proposerai de découvrir une création du collectif Waouh, un collectif de création sonore qui est basé en Belgique. D'ici là, n'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer des retours encourageants, à nous dire qu'on a besoin de patates et d'énergie, ou bien à nous dire qu'on a vraiment eu beaucoup de mal à prononcer des choses. On sera très heureux de vous lire. Vous pouvez nous écrire à prog.radioG@gmail.com ou bien aux pages Facebook ou Instagram de Radio G. Je vous souhaite une très bonne soirée. À 19h dans quelques minutes, vous retrouvez La Case de Seb, l'émission consacrée aux BD, comics et mangas. À demain. Et salut José, je vois ta main.
Radio G 101.5 FM. Il est 19h sur le 101.5